Albert Bataille, Causes criminelles et célèbres de 1892. Ravachol, un mot de préface. L'année judiciaire 1892 apporte à la chronique son contingent normal de crimes passionnels, de scandales mondains, d'adultères, de vols et d'assassinats. Si le vitriol semble quelque peu délaissé, le revolver demeure l'ultima ratio des maris trompés, des femmes jalouses, des maîtresses abandonnées, et le jury, sentimental et naïf, persiste à encourager les vengeances individuelles. C'est à peine si, de loin en loin, les acquittements traditionnels sont interrompus par quelques condamnations dérisoires. Mais le gros crime, celui que les fabricants de feuilletons populaires délaient en 25 000 lignes, n'a pas absolument disparu, malgré la diffusion des Lumières. Les populations rurales continuent de se signaler par la suppression des vieux. Quelques domestiques de confiance s'obstinent à assassiner leur maître. Et sous les yeux impuissants de 10 000 hommes de police, des bandes fonctionnent en plein Paris. Et la banlieue n'a pas cessé d'être le réservoir inépuisable des récidivistes. Mais l'obscurité de la plupart des condamnés à mort ne nous a pas permis de consigner ici le récit des crimes sans originalité et sans distinction. L'année 92 ne se fait remarquer par aucun forfait légendaire. Année moyenne, dirions-nous, si elle ne se distinguait de ses aînés par deux manifestations sociales des plus caractéristiques. L'antisémitisme et l'anarchisme passent à l'action. De ces deux explosions soudaines, le chroniqueur judiciaire, simple enregistreur des faits du temps, n'a pas à rechercher les causes, il lui suffit de les signaler. L'anarchisme qui, chez les silencieux de Russie et d'Allemagne, s'était enhardi jusqu'au régicide, semblait avoir trouvé un terrain réfractaire dans ce pays de France où l'on parle trop pour agir. Les habitudes d'épargne, de travail, la constitution de nombreuses sociétés d'assistance ou de prévoyance, une sage limitation de la paternité, et par-dessus tout notre bon naturel, paraissaient nous mettre à l'abri en faisant du plus humble des prolétaires un candidat à la bourgeoisie. Et depuis les explosions de Montceau-les-Mines, salve prématurée du grand soir, la dynamite n'avait plus parlé. Et voici qu'en 1892, la propagande par le fait se réveille avec Ravachol. Coup sur coup, à la suite du vol de dynamite de Soisy sous Étiole, des attentats sont commis contre deux magistrats qui ont siégé dans un procès d'anarchistes, M. le conseiller Benoît et M. le substitut Bulot. Deux bombes sont déposées à la préfecture de police, à l'hôtel de ville, à la porte d'hôtel particulier. Ravachol est pris. Il va être jugé, condamné. La veille même de son procès, une nouvelle explosion frappant les jurés d'épouvante lui donne momentanément la vie, en même temps qu'elle blesse mortellement le restaurateur Véry, beau-frère du dénonciateur de l'assassin. Voilà le réveil de l'anarchisme. Souhaitons qu'avec l'explosion du restaurant Véry et l'effroyable attentat du commissariat de police de la rue des Bons-Enfants, la liste de ces tristes exploits soit close. L'antisémitisme, qui avait mis tant d'années à s'acclimater dans ce pays de tolérance, semble se développer parallèlement à l'anarchisme et, comme lui, fait explosion en 1892. Celui-ci s'attaque aux bourgeois, celui-là aux juifs qui possèdent. Bien que les deux mouvements soient dirigés par des hommes absolument étrangers les uns aux autres, bien qu'il soit impossible de confondre leurs théories, peut-être ont-ils leur source dans les mêmes malaises. La France souffre du mal d'argent. Les grandes fortunes sont en train d'absorber la petite épargne, comme les grands magasins ont tué le petit commerce, comme les manufactures immenses ont tué le travail à domicile, si familial, si intime, si moralisateur. L'énorme procès de Panama dont on trouvera le compte-rendu dans notre recueil pour 1893 nous montrera d'une part des employés, des artisans, des domestiques ruinés, dépouillés d'économies amassées sou à sou pendant toute une existence de privation, et de l'autre des financiers scandaleusement enrichis, le baron de Reinhard, les Arthon, les Hugo Bendorfer, les Lévy Crémieux, les Cornelius Hertz, tous étrangers d'origine, tous sortis pieds nus de quelque Judenkasse allemand, tous jouisseurs, tous marchands de conscience, tous corrupteurs et rapportant tout à l'argent. L'argent, c'est contre ce colosse au pied d'argile que, sans le savoir peut-être, le socialisme révolutionnaire et l'antisémitisme sont ligués. C'est le parallélisme de cette double explosion qu'il importe de noter comme le double symptôme d'une même maladie sociale. Et comme les révolutions frappent toujours les innocents, la bombe anarchiste du restaurant Véry tue un ouvrier, un miséreux, le pauvre Amono, attablé avec des amis après sa journée de travail. Et le premier juif qui tombe victime de l'horrible guerre religieuse n'est ni un aventurier, ni un tripoteur. C'est un des nombreux Israélites qui vivent parmi nous de la vie modeste, utile et laborieuse. C'est mieux, c'est un officier français, le capitaine Meyer, qui sera blessé mortellement en duel, pendant qu'un autre officier israélite, le capitaine Crémieux Foire, arrose de son sang les champs de bataille du Dahomey. Ravachol. Ravachol. Les explosions de Paris. Paris, 27 avril. Autour du palais. Fort peu de monde autour du palais de justice. La place Dauphine est absolument déserte. Sur le boulevard, les tramways circulent comme à l'ordinaire. À la grille, il faut montrer patte blanche, exhiber une citation, une carte de journaliste, un laissez-passer quelconque. Mais, ces précautions prises, on circule librement dans les couloirs. La salle est presque entièrement composée de journalistes et d'avocats. Au fond, dans la partie réservée au public debout, de nombreux gardes de Paris et de non moins nombreux agents de la sûreté. Les accusés. À 11 h, les accusés sont introduits. Ravachol marche le premier, la moustache au vent, l'air content de lui, bourgeois, très bourgeois, avec son col immaculé, sa redingote à la propriétaire. C'est bien toujours le gommeux de l'anarchisme, auquel il ne demande que sa boîte de phare. Mais si l'homme a essayé de se donner une sorte de cachet de muscadin, l'expression du visage reste singulièrement commune. L'œil est dur, la mâchoire bestiale, le teint plombé. Nous le jugerons tout à l'heure, pendant que M. le Président Guess va l'interroger, avec une modération et des formes auxquelles les anarchistes eux-mêmes ne pourront que rendre justice. Contrairement à la plupart des compagnons, Ravachol n'est pas un phraseur. Il suffit d'entendre ses réponses brèves, impatientes, faites de mauvais gré, comme si la parole lui répugnait, pour reconnaître l'homme d'action, l'individu qui médite un coup et qui l'exécute, préférant le fait à la glose et opérant en dehors des comités, des réunions, des bavards, parce qu'il se méfie des oreilles indiscrètes. Ravachol est ce qu'on appelle en style de police un solitaire. À la première question du président sur son état civil, il répond d'une voix assurée: Je m'appelle Königstein, 32 ans, dit Ravachol, teinturier, né à Saint-Chamond, Loire, demeurant à Saint-Mandé. À côté de lui, Simon, dit Biscuit, un pâle gamin de 17 à 18 ans, la mine effarée d'un lapin aux aguets, puis Chaumartin, puis Béalard, que nous esquisserons tout à l'heure, enfin la femme Soubert, invisible sous une sorte de mantille noire et sanglotant dans son mouchoir. Monsieur le procureur général Quesnay de Beaurepaire occupe le siège du ministère public. Au banc de la défense, Maître Lagasse, avocat de Ravachol, Maître Henri Robert, Eugène Crémieux, Fourcade et Deschamps. Les pièces à conviction. La table des pièces à conviction est littéralement surchargée. Voici des caisses en bois blanc, soigneusement scellées, renfermant des cruchons remplis de liquides explosifs, un réchaud, un tuyau de poêle, le fameux boîte à asperges que Ravachol avait adopté comme la plus commune des bombes et la plus inoffensive d'abcès. Appuyés contre la bande des pièces à conviction, des éclats de cloisons, des morceaux de tapis, d'escaliers, toutes sortes de débris provenant des maisons dynamitées, une énorme malle qui rappelle la malle légendaire de Gouffet. Monsieur le greffier Wilmès donne lecture de l'acte d'accusation qui résume en ces termes l'existence criminelle de Ravachol. L'acte d'accusation. Le 28 août 1891, un nommé Decamp, déclaré coupable d'avoir blessé à l'aide d'armes à feu des agents de police, était condamné par la cour d'assises de la Seine. Quelque temps après, Chaumartin, ami de Decamp, mettait en rapport et recevait à son domicile plusieurs individus animés comme lui du désir d'exercer une sanglante vengeance. Au nombre des familiers de la maison se trouvaient d'abord Königstein, dit Ravachol, et Simon. Plus tard, Béala et la fille Soubert, sa maîtresse, se rejoignirent. Les uns et les autres avaient la prétention de prêter au crime de droit commun l'apparence d'une guerre à la société et de trouver ainsi une sorte d'excuse à leurs appétits et à leurs méfaits. Mais aucun d'eux ne saurait donner le change sur ce point. En effet, chez l'accusé Chaumartin, dont personne pourtant ne menaçait la sécurité, on a trouvé deux revolvers, dont une arme de poche, sans parler d'un fusil et de nombreuses douilles de cartouches. Chez Béala, une perquisition amenait la saisie d'un revolver et de cartouches, d'un coup de poing américain et d'une pince en fer, instrument de vol. La police a découvert, dans le lieu où couchait Simon, une fausse barbe, en même temps qu'un modèle de bombe en bois garni de cartouches vides. Ce même Simon a déjà été condamné pour vol et est en ce moment l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la police correctionnelle pour un autre vol. Enfin, Königstein, dit Ravachol, possédait dans son logement de Saint-Mandé un étau, deux lanternes sourdes, tout l'outillage d'un cambrioleur et du poison. Chaumartin était visiblement hanté par la pensée du crime, car en 1891, il pria Béala, alors domicilié à Saint-Étienne, d'expédier des cartouches de grisoutine à Pamiers, ville qu'il avait habitée où il avait laissé des acolytes. Au mois de juillet dernier, Königstein, dit Ravachol, lui fut envoyé de Saint-Étienne ou de Lyon par de secrets confidents et apparut à Saint-Denis sous le nom de Léon Léger. Cet accusé était dans la nécessité de se cacher, car après avoir été, de son propre aveu, contrebandier, voleur, faux-monnayeur et violateur de sépultures, il était activement recherché dans le département de la Loire pour un assassinat suivi de vol, dont d'ailleurs il se reconnaissait coupable. Le vol, commis chez le vieillard assassiné, lui avait procuré des sommes très importantes, à tel point que Chaumartin, son nouvel ami, put aller à Saint-Étienne pour retirer des mains du receleur Béala une somme de 3 000 francs qu'il lui rapporta à Saint-Denis. Au mois de février 1892, Jas Béala, sous le prétexte de chercher de l'ouvrage dans le département de la Seine, vint le rejoindre, accompagné de sa maîtresse, l'accusée fille Soubert. À la même époque, on constata, au chantier de Soisy-sous-Étiole, arrondissement de Corbeil, la soustraction frauduleuse de 420 cartouches de dynamite, et Ravachol interpellé sur ce crime, a refusé de répondre. Contre son habitude, c'est-à-dire n'a pas nié. Là, de son côté, avait apporté de Saint-Étienne une assez grande quantité de cartouches de grisoutine. Les conciliabules se poursuivaient dans ce groupe dont Chaumartin était le centre. On possédait les explosifs qui allaient permettre la perpétration d'un de ces crimes qui donnent le moyen de frapper sans courage et de fuir sans laisser de traces. Les victimes furent bientôt choisies. Pour venger des camps, on attendrait au jour de M. le conseiller Benoît, qui avait présidé les assises de la Seine le 28 août 1891, et de M. le substitut Bulot, qui avait prononcé le réquisitoire dans la même affaire. Mais ce n'était pas tout. Pour tuer ces magistrats par l'explosion d'un engin dans l'immeuble par eux habité, il était nécessaire de vouer aussi à la mort les autres locataires de la maison, quels qu'ils fussent. Cette perspective n'arrêta aucun d'eux. Cependant, ils y ont pensé mûrement, car après le premier attentat, Ravachol a appris avec regret par les journaux qu'il n'y avait pas de victimes. Et à la suite du second, il a raconté avec satisfaction au témoin Léraud que cette fois, il y en avait plusieurs. Il y a donc eu chez les accusés deux intentions meurtrières distinctes. Celle qui consistait à frapper de mort le magistrat, objectif principal et initial, et celle qui consistait à frapper de mort des êtres humains composant son voisinage et son entourage. Et comme il n'était matériellement pas possible de tenter le premier homicide volontaire sans tenter en même temps l'autre, une double accusation s'impose pour ce double crime. Après l'arrivée de Béala et le vol de la dynamite, l'exécution ne s'est pas faite attendre. C'est Königstein, dit Ravachol, qui a chargé l'engin en déposant 50 ou 60 cartouches dans une marmite de faible dimension. Ces cartouches se composaient par partie de la dynamite soustraite à Soisy et par partie de la grisoutine apportée de Saint-Étienne par Béala. Ravachol y sema des débris de fer en guise de mitraille. Monsieur le conseiller Benoît ne fut pas, à vrai dire, la première victime dont avaient fait choix les criminels. Ils avaient projeté tout d'abord de faire sauter le commissariat de police de Clichy, ce qui se rattachait tout aussi directement à l'affaire de Caen. Le 7 mars, Königstein dit Ravachol, Simon et Béala ont porté à cet effet la marmite chargée avec ses mèches prêtes, mais un agent était de faction devant la porte du commissariat, ce qui suffit à les mettre en fuite. Ce projet d'avorter, qui n'est une tentative de crime qu'en point de vue moral, n'eut pas d'autre suite. Béala, cependant, dit à ses associés, « Il ne suffit pas de causer, il faut agir. » Et l'assassinat de M. Benoît fut résolu. Simon fut alors dépêché près de la demeure de ce magistrat, boulevard Saint-Germain, 130. Il parcourt tous les étages, cherchant une plaque ou un indice qui pût lui faire connaître la porte de l'appartement, afin que l'engin fit explosion au niveau voulu. Mais les recherches du jeune homme furent vaines, et vaines aussi ses questions multiples à la concierge. Le 11 mars, vers 6 heures du soir ou environ, ils partirent tous. Tous savaient quel était le contenu terrible de la marmite. Leur sortie en commun, la promiscuité dans laquelle ils vivaient, leur concert chaque fois plus affirmé, la crainte qu'ils avaient de subir l'examen des employés de l'octroi, tout le démontre. Le porteur de l'engin fut d'abord Chaumartin, mais avant d'arriver au tramway, les autres trouvèrent suffisante cette assistance et ne l'emmenèrent pas, parce qu'il était père de famille. Königstein, vêtu d'une façon élégante, s'assit à l'intérieur du tramway et la fille Soubert, dite Mariette, prit place sur l'impériale entre Simon et Béala, aussi près que possible du cocher, afin d'échapper mieux aux investigations des préposés de l'octroi. Elle recouvrait de ses jupes la marmite déposée devant elle. Après le passage de la barrière, elle descendit et retourna à son logement, tandis que Königstein dit Ravachol, Simon et Béala poursuivaient leur route et prenaient la correspondance menant au boulevard Saint-Germain. Lorsqu'ils furent arrivés devant le numéro 136, Königstein entra armé de deux pistolets et muni de l'engin, tandis que Simon et Béala restaient près de la porte entrebâillée, tant pour empêcher qu'elle fût refermée sur leurs compagnons que pour faire le guet et assurer sa retraite. Leurs délégations partielles sur ce point ont été facilement réfutées. Königstein déposa l'engin sur le palier du premier étage, au-dessus de l'entresol, afin d'attaquer l'immeuble à son centre, dans l'ignorance où il était de l'appartement occupé par M. Benoît. Il alluma la mèche, descendit sans être vu, et fut surpris par l'explosion à l'instant même où il regagnait le trottoir. « J'ai cru, disait-il, que la maison me tombait dessus. » Cette explosion et cette projection de mitraille causèrent des ravages effrayants. M. Benoît, qui occupe le quatrième étage, ne fut pas atteint, mais son appartement fut gravement endommagé. Une seule personne fut blessée. Les habitants du premier étage au-dessus de l'entresol ne furent que par miracle préservés de la mort. L'ensemble de l'immeuble offrait au regard un spectacle lamentable. Simon, Béala et Ravachol firent retraite par une rue latérale en marchant espacés. Plus loin, ils se réunirent et rejoignirent gaiement Saint-Denis. Un échange de coiffures les fit surtout beaucoup rire. Le surlendemain, c'est-à-dire le dimanche 13 mars, on proposa un second attentat. Cette fois, il s'agissait de M. le substitut Bulot. Ravachol, opérant d'après les recettes données par le journal L'International, se mit à fabriquer de la nitroglycérine dans sa chambre, sise au numéro 2 du quai de la Marine à l'île Saint-Denis. Il n'était pas seul. Simon prenait part à la sinistre besogne. Chaumartin venait le trouver, puis Béala et la femme chevalier, qu'il prenait à tort pour une femme capable des mêmes crimes, pénétra dans la chambre avec Chaumartin et a donné, comme ce dernier, la description de la scène. Simon était assis sur une couverture roulée. Il tenait d'une main un vase grand comme le fond d'un chapeau, de l'autre main un thermomètre. Léon, Ravachol, versait goutte à goutte un corps gras dans le récipient. Il disait que c'était pour faire sauter des maisons. Si la température s'élevait, on suspendait le travail. Des cartouches de dynamite étaient placées dans un casier sur la cheminée. Chaumartin les aida et les assista un moment en agitant l'eau du seau avec une cuillère. Ravachol entendait obtenir cette fois un engin plus puissant qui lui évita sa déception du 11 mars. Et voici comment, de son propre aveu, il chargea sa valise qui devait lui servir de récipient. 120 cartouches furent entassées et de la poudre de mine fut coulée dans les vides. Vers le centre était posé un paquet de sébastine. Qui causa les hésitations et l'inaction entre l'attentat du 11 et celui du 27 ? Fut-ce l'entreprise dont la caserne Lobo a été le théâtre dans la nuit du 14 au 15 ? On ne saurait l'affirmer, d'autant plus que sa disposition de l'engin et les autres moyens d'exécution semblent provenir de mains différentes. Ce serait plutôt l'activité des recherches, bientôt suivie d'arrestations. Quoi qu'il en soit, Ravachol était privé le 27 mars de l'assistance mutuelle de ses co-auteurs du 11. Sans doute Simon et Chaumartin. Simon, surtout, la BTD dans la fabrication de la nitroglycérine destinée à l'attentat, mais après cet acte de complicité, il ne pouvait ni l'accompagner, ni faire le guet sur le théâtre du crime. Cependant, Ravachol, qui avait fui alors de son logement de l'île Saint-Denis, partit de sa chambre de Saint-Mandé le dimanche 27 mars, muni de sa valise. Il monta en omnibus et arriva rue de Clichy vers 8 heures du matin. L'immeuble qu'il voulait détruire fait l'angle de la rue de Clichy et de la rue de Berlin. On ne sait pas exactement comment il s'était procuré l'adresse de M. Bulot. Dans tous les cas, il ignorait le numéro de l'étage et dut recourir au même calcul que celui qu'il avait décidé la première fois, c'est-à-dire viser la maison entière en plaçant le foyer de l'explosion sur la ligne médiane au second palier. La mèche était cette fois plus longue. Aussi, après l'avoir allumée, l'accusé eut-il le temps de descendre sans hâte, de tourner l'angle de la rue de Berlin et de remonter pendant 50 mètres la rue de Clichy. Là, il attendit le résultat. Il avoua avoir éprouvé quelque impatience parce que l'explosion se faisait attendre. Mais quelques secondes plus tard, il eut lieu d'être satisfait, car une détonation formidable se produisit et la maison fut ravagée jusque dans ses fondements. On a peine à comprendre, après l'avoir vu, qu'elle ne soit pas écroulée et que la plupart des habitants n'aient pas été tués. Plusieurs ne s'échappèrent qu'à grand-peine et furent sérieusement blessés. Monsieur le substitut Bulot, dont l'appartement était situé au 4e étage, put heureusement sortir sain et sauf en franchissant un amas informe de meubles et de vitres par l'escalier de service qui n'avait pas été entièrement détruit. Cette fois encore, par l'effet d'un hasard étonnant, on n'avait pas de mort à déplorer. Cependant, les cris de douleur et la consternation des voisins accourus causèrent quelque satisfaction à Ravachol, qui alors abandonna son poste d'observation pour aller déjeuner dans un restaurant du boulevard Magenta. C'est là qu'avec la forfanterie vaniteuse d'un criminel de profession qui aspire à jouer un rôle, il se fit remarquer par des récits et des bravades qui devaient quelques jours plus tard éveiller les soupçons du garçon de salle et amener son arrestation. Lorsque Ravachol fut entre les mains de la justice, il voulut d'abord payer l'audace et se refusa à répondre. Ayant depuis quelques jours coupé sa longue barbe, il s'était rendu presque méconnaissable et les premières confrontations laissèrent place à quelques incertitudes. Mais Chaumartin, qui avait déjà fait des aveux complets, le mit hors d'état de ruser plus longtemps. Mais Allah, de son côté, avait livré, en dépit de ses réticences, une grande partie de la vérité. Ravachol se trouva donc réduit à confesser son identité, puis ses crimes. C'est alors que, passant du mutisme aux déclarations tapageuses, il essaya de se poser en révolté fanatique. Mais la froide cruauté de son caractère, les crimes de droit commun dont il s'est souillé sans cesse pour vivre sans travailler, les instruments de malfaiteurs vulgaires trouvés dans sa possession ne lui permettent pas de soutenir le personnage qu'il a imaginé pour faire illusion, soit au public, soit à ses juges. On doit en dire autant de chacun de ses co-accusés. Ces gens-là n'ont pensé à l'affaire de Caen qu'à titre de prétexte. En réalité, ils en veulent, comme tous les criminels, à quiconque représente la justice. C'est ainsi que Ravachol et les siens ont un moment étudié le projet de jeter un engin explosif au milieu de notre palais, dans une galerie que l'un d'eux représente comme très fréquentée par les magistrats. Ils se vantent, Simon comme Ravachol, de n'éprouver aucun regret de leurs actes. Il est juste d'ajouter que Chaumartin, plus sincère, ne fait pas montre de ce cynisme et que la fille Soubert paraît obéir à l'impulsion de son amant Béallah. Interrogatoire de Ravachol. Demande. Vous vous appelez Königstein, vous êtes plus connu sous le nom de Ravachol, qui est celui de votre mère. Vous avez 33 ans et vous dites être né à Saint-Chamond, dans la Loire. Vous n'avez jamais été condamné, mais à Saint-Étienne, vous avez longtemps habité, vous avez laissé le déplorable souvenir. Faux monnayeur, contrebandier, malfaiteur des plus dangereux, c'est en ces termes que la police vous qualifie. Ravachol avec insouciance. J'ai avoué tout ça. Mais quand on vous a arrêté, on a trouvé quai de la Marine à Saint-Denis et aussi à Saint-Mandé, où vous avez habité ensuite, deux revolvers, un flacon d'acide nitrique, une fausse barbe, deux lanternes sourdes, un rat-cave, une boîte de 25 cartouches de revolver, trois pinces Monseigneur, des mèches pour explosifs, des monnaies fausses, de nombreuses fioles contenant des préparations chimiques. Ravachol ne répond plus. Il écoute avec intérêt, penché nonchalamment sur la barre, prêtant l'oreille, qu'il a un peu dure, prétend-il. Il a tout avoué, absolument tout, dans les plus grands détails. Il dédaigne de se répéter et se borne à ponctuer d'un signe de tête le récit, d'ailleurs très succinct, de Monsieur le Président Guès. Non seulement vous vous êtes reconnu l'auteur des deux explosions du boulevard Saint-Germain et de la rue de Clichy, mais vous avez fait connaître votre passé. Bon, je croyais être poursuivi pour le tout en une seule fois, aussi bien pour les fêtes de Saint-Étienne que pour les fêtes de Paris. Aujourd'hui que je suis plus poursuivi pour les crimes de la Loire, je m'abstiendrai d'en parler. Je suis pas ici pour ça. J'ai absolument rien. Mais mon devoir est d'en parler à messieurs les jurés de ces fêtes de Saint-Étienne. Vous usez de votre droit, mais moi j'accomplis un devoir. Je ne dis que ce qu'il y a dans le dossier. Les crimes de Ravachol. Eh bien, vous avez tué pour le voler un malheureux ermite de Chambles près de Saint-Étienne. Ce vieillard de 94 ans vous suppliait de lui laisser quelques années qu'il avait encore à vivre. Jamais, vous disait-il, jamais il avait fait de mal à personne. Vous êtes resté impitoyable et après l'avoir étouffé avec votre mouchoir, vous lui avez volé ses 35 000 francs d'économie. Plusieurs de vos complices ont été condamnés pour recel aux travaux forcés par la cour d'assises de la Loire. Arrêtez vous-même, vous vous êtes évadé. Et c'est parce que vous vous saviez recherché par la police que vous avez quitté Saint-Étienne. Fidèle à son programme, Ravachol ne répond pas. Comme il l'a dit tout à l'heure, il n'est pas ici pour ça. Vous avez encore avoué qu'au mois de mai de l'année dernière, ayant appris que la baronne de la Roche-Taillée venait d'être ensevelie dans un cimetière des environs de Saint-Étienne, vous aviez escaladé le mur du cimetière, soulevé la pierre tombale, vous avez pénétré dans le caveau avec une lanterne sourde, ouvert le cercueil et essayé d'arracher les bagues des mains froides de la morte. Mouvement prolongé dans la séance. Ravachol. Je n'ai rien à dire, je ne veux pas répondre. Monsieur le Président Guès pourrait encore parler de bien d'autres crimes, de plusieurs assassinats commis dans la Loire et dont Ravachol est soupçonné d'être l'auteur. Obligé de se restreindre par la précipitation même de l'instruction, il se borne à rappeler à Ravachol qu'il a fait la contrebande du tabac, celle de l'alcool, dévaliser des villas. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, conclut-il, moi, magistrat, que votre passé est horrible. Ravachol à Paris. Arrivons maintenant au fait de la cause. C'est à Saint-Étienne que vous avez commis votre compagnie Sbréala. Il était dépositaire d'une partie de l'argent volé chez l'ermite de Chambleu. Quand vous êtes venu habiter Saint-Denis cet hiver, vous avez envoyé à Saint-Étienne Chaumartin, chez lequel vous logiez, et réclamé à Béala une somme de 5 000 francs. Vous-même aviez apporté de Saint-Étienne beaucoup d'argent. Ben, environ 7 000 francs, provenant de Notre-Dame-de-Grâce. Du vol chez l'ermite, vous voulez dire de... Oui, c'est cela. Mais sachant chercher à Saint-Étienne, j'avais tout intérêt à dissimuler mon nom. J'ai pris alors celui de Léon Léger, sous lequel j'étais connu à Saint-Denis. J'allais demeurer chez Chaumartin, que je connaissais comme un camarade et qui ne me demanderait pas trop d'explications. Chaumartin faisait partie de la chambre syndicale des hommes de peine, dans laquelle il me fit entrer. Mais qui donc vous avait donné son adresse? Bon, je ne me souviens pas. Et s'il me le rappelait, je ne le dirais pas. Plus tard, vous avez loué une chambre à Saint-Denis. Mais vous visitiez quotidiennement Chaumartin. Vous étiez très aimé chez lui. On vous appelait le cousin Léon. Vous appreniez même à lire à sa petite fille. C'est chez Chaumartin que vous avez connu Simon Dibiscuit. Bon, je saurais le dire. Et Gustave Mathieu. Bon, je l'ai vu quelquefois. Et Béala et Mariette Soubert. Bon, nous nous trouvions de temps en temps réunis chez M. Chaumartin. Et quel était l'objet principal des conversations? Bon, rien de spécial. Il n'était pas question de commettre quelque attentat. Nullement. Au mois d'août dernier, la cour d'assises de la Seine a jugé deux anarchistes, Decamps et Dardard, qui ont été condamnés pour avoir organisé une émeute le 1er mai 1991 dans les rues de Levallois. J'ai connu ces procès par des amis qui avaient assisté à l'audience. J'ai su que M. le Président Benoît avait été très partial. Quant à M. Bulot, il avait traité de brigands des pères de famille dont les enfants sont dans une profonde misère. Il avait même requis contre eux la peine de mort. Mais le fait d'être père de famille n'empêche pas d'encourir les peines les plus graves. C'est votre appréciation personnelle. Ça n'a pas été celle du jury, car Descamps et Dardard ont été condamnés qu'à la prison. Et depuis, Descamps et Dardard avaient été indignement traités par la police lors de leur arrestation. Oh, tout cela m'a révolté. Enfin, c'est par colère que vous avez voulu frapper M. Bulot et M. Benoît. Vous avez voulu venger les condamnés. Vous avez attendu bien longtemps. Le procès du mois d'août 1891 et l'attentat du boulevard Saint-Germain est du mois de mars 1892. Le vol de Soisy sous Étiolles. Dans l'intervalle, un vol de dynamite avait été commis à Soisy sous Étiolles. 425 cartouches et 300 mètres de mèche avaient été emportés dans la nuit du 13 au 14 février. Connaissez-vous ce vol? Voulez-vous m'en parler? Bien pris aucune part. Mais vous avez avoué à Chaumartin que vous étiez au nombre des voleurs. Vous êtes même entré dans beaucoup de détails. Il s'agissait d'une véritable expédition. Mais jamais j'ai rien avoué de pareil à Chaumartin, il ment. Dans ce même mois de février, Béala et Mariette Soubert, sa maîtresse, sont arrivés de Saint-Étienne à Saint-Denis. Porteur de 120 cartouches de grisoutine. Le vol de Soisy sous Étiolles était déjà commis. Aussi, dès le 7 mars, vous, Simon et Béala, vous êtes partis pour faire sauter le commissariat de police de Clichy. C'était un lundi. Bon, je ne me rappelle pas si c'était un lundi, mais le fait est vrai. J'en voulais au commissaire qui avait fait maltraiter, frapper Decamps et Dardard lors de leur arrestation. Mais ces deux individus avaient fait le coup de feu contre les agents de la force publique. Oh, c'est plus tard, c'est dans le poste que tous les gardiens de la paix sont rués sur eux. Faut avoir bien peu de soucis de la vie des ouvriers. Mais comment savez-vous tout cela? Vous n'étiez pas à Levallois le 1er mai dernier? Vous m'avez bien raconté tout à l'heure ce que m'avait dit l'ermite des Chambles. Cependant, vous n'y étiez pas. Le projet d'attentat contre le commissaire de Clichy n'eut pas de suite. Ravachol. Mais pensez qu'il fallait frapper plus haut. mouvement. Mais n'y avait-il pas devant le poste un agent qui vous a aperçu? Vous vouliez même tuer cet agent. Ravachol, froidement. Oui, ce Béala et Simon qui m'en ont empêché. L'attentat du boulevard Saint-Germain. Vous aviez connu à Saint-Denis un homme Éviard, ancien membre de la commune et qui est mort récemment. Oui, je l'avais rencontré dans des réunions. Je savais que c'était un anarchiste. N'est-ce pas par lui que vous avez connu l'adresse de M. Benoît? Non, c'est par le bottin. Le vendredi 11 mars, vous avez apporté chez Béala une marmite enveloppée de papier goudronné et attachée avec des fils de fer. Cette marmite renfermait un engin explosif que vous aviez fabriqué dans votre chambre? Oui. Et qu'avez-vous fait? Nous avons pris le tramway avec Béala et Simon. Nous sommes allés directement à Paris, boulevard Saint-Germain, chez M. Benoît. Je suis monté au deuxième étage, j'ai déposé l'engin devant la porte et j'ai allumé la mèche. J'étais vêtu de noir, comme maintenant, avec un chapeau à haute forme. Fallait de la tue pour pas éveiller l'attention. La mèche allumée, je suis redescendu et j'avais à peine passé la porte que l'explosion a eu lieu. J'ai cru que la maison allait tomber sur moi. Vous étiez seul? Oui, seul. Simon et Béala m'avaient laissé en route. Ils n'étaient plus avec moi. Vous avez vis-à-vis de vos accusés une attitude généreuse. Ici, la question importante pour l'application de la peine. Vous vouliez la mort de M. Benoît, que vous avez même raconté que vous aviez songé à lui tirer un coup de pistolet ou à l'assommer avec un marteau, votre instrument favori. Je ne me rappelle pas, j'ai dit que j'avais voulu le tuer pour avoir l'explosion. Voilà tout. Le dimanche suivant, 15 mars, Simon et Ravachol occupèrent leur journée à fabriquer de la nitroglycérine. Vous avez dit vous-même que c'était cette nitroglycérine qui avait servi à l'explosion de la rue de Clichy. Et Chaumartin, qui survint, remet le dangereux mélange avec une cuillère. L'explosion de la rue de Clichy. Comment avez-vous connu l'adresse de M. Bulot? Par le bottin. Vous deviez, avez-vous dit, renoncer à agir le soir, pensant bien que, depuis l'attentat du boulevard Saint-Germain, une surveillance active s'exercerait pendant la nuit autour des maisons des magistrats. Vous avez donc décidé d'agir le matin de bonne heure contre M. Bulot. Oui. Qu'avez-vous fait le 27 mars, jour que vous aviez fixé pour l'attentat? J'avais déjeuné à Saint-Mandé, où je m'étais caché. Je me suis mis en route vers 6h30, ma valise à la main, et dans la valise, une boîte d'asperges contenant de la dynamite et de la poudre. Mais c'était un engin formidable. Ravachol tranquillement. Ben oui, j'ai pris le tramway de Saint-Mandé au Louvre et je suis arrivé à la Trinité avec la correspondance. Et une fois devant la maison de M. Bulot, j'ai ouvert la serrure de ma valise qui était fermée à clé et je suis monté au deuxième. Là, j'ai ouvert ma valise et j'ai mis le feu aux mèches. Oh, c'était même très dangereux. Il y avait dans la valise de la poudre de mine. Une étincelle pouvait l'enflammer. La mèche avait 80 cm de long. Cela m'a permis de redescendre jusqu'à la rue de Clichy. J'ai même fait une cinquantaine de mètres et j'étais étonné que l'explosion ne se produisât pas plus vite. Ce serait de la naïveté de vous demander pourquoi vous avez adopté une mèche aussi longue. Ben, cela me donnait le temps de m'en aller. Avez-vous su le résultat de l'explosion? Nullement, mais je l'ai appris que le lendemain par les journaux. Monsieur le Président, la détonation avait été épouvantable. 5 personnes furent blessées, dont une femme en couche. L'escalier s'effondra. C'est mirable que la maison tout entière n'ait pas été détruite. Où êtes-vous allé après l'explosion? Ben, j'ai repris l'impériale de l'omnibus pour voir l'effet de l'explosion. Mais je m'étais trompé. Ces omnibus-là, ils passent pas par la rue de Clichy. Et puis? Ben, je suis allé déjeuner au restaurant boulevard Magenta. Oui, dans ce restaurant devenu hier si tristement célèbre, le restaurant Véry. Sensation. J'ai malheureusement causé dans ce restaurant avec un garçon nommé Léraud, qui se plaignait à quoi, moi, de la dureté du service militaire. Alors, j'ai essayé de le convertir. Vous n'y avez pas réussi. Faut croire. J'ai voulu parler d'anarchie, mais je suis pas un orateur. Non, vous êtes un homme d'action. Pourtant, j'entends soutenir ici mon idée, Monsieur le Président. Ce n'est pas moi qui discuterai avec vous, un homme comme vous. Songez à votre passé, à ce malheureux vieillard de 94 ans qui vous demandait miséricorde. Et Chaumartin prétend que vous êtes sensible, que vous avez du cœur. Ici se place un incident. À l'occasion d'un interrogatoire de Ravachol, Maître Lagasse tient à déclarer que son client n'a jamais cessé de rendre hommage à la courtoisie de Monsieur Attalin. Monsieur le procureur général Quesnay de Beaurepaire, le magistrat n'a pas besoin des compliments de Ravachol. Déclaration de Ravachol. L'interrogatoire est maintenant terminé. Mais Ravachol tient à faire sa petite déclaration anarchiste. Comme il n'est pas orateur, il l'a dit, il tire un papier de sa poche et lit d'une voix retentissante ces quelques phrases. J'ai frappé, Monsieur le Président Benoît. Premièrement, parce qu'il s'est montré trop partial dans le procès de Descamps et Dardard et qu'il a élevé la peine au maximum. Deuxièmement, parce qu'il n'a prêté aucune attention aux violences exercées par les gardiens de la paix sur Descamps et Dardanne, qui avaient été laissés pour morts. Troisièmement, ma vengeance s'est portée sur M. Bulot, parce qu'il avait requis la peine de mort contre un père de famille. J'ai voulu faire comprendre à ceux qui sont chargés d'appliquer les peines qu'ils étaient à être plus doux. Quant aux victimes innocentes que j'ai pu atteindre, je le regrette sincèrement, je le regrette d'autant plus que la vie a été pleine d'amertume. Je regrette vivement aussi d'avoir amené sur ces bancs des gens qui n'ont d'autre tort que de m'avoir connu. L'anarchie veut faire de la société une grande famille, où le plus faible sera protégé par tous, où tous les biens seront en commun, où chacun pourra manger à sa faim. Mon intention était de terroriser pour forcer la société actuelle à jeter un regard attentif sur ceux qui souffrent. On a tort de nous prendre pour des criminels, nous ne sommes que les défenseurs des opprimés. J'ai dit, sic. Tout tranquillement, Ravachol replie son papier, le met dans sa poche et s'assied. Mais Monsieur le procureur général tient à lui adresser une dernière question. Quand vous avez été arrêté, vous aviez encore à votre disposition 270 à 300 cartouches de dynamite volées à Soisy-sous-Étiolles. Où sont-elles? Mouvement d'attention. Monsieur, vous ne le direz pas, monsieur le procureur général. À quel usage était destiné le poison, la strychnine, qui a été trouvée dans votre chambre? Vous la gardez à tout hasard. Je n'avais pas l'idée d'empoisonner, mais il est toujours bon d'avoir à sa disposition des moyens dangereux.
Interrogatoire de Simon dit Biscuit. Simon dit Biscuit est un gamin de 19 ans, à l'allure faubourienne, le poing sur la hanche, traînant sa voix, répondant imperturbablement par un seul mot, parfaitement, à toutes les questions du président. Il est ouvrier peintre et a déjà été condamné pour vol. Il en donne cette explication exquise. Oh, j'ai été victime d'une infamie. J'étais dans une usine. On apporte toujours un peu de tout. Je voyais les autres faire. J'ai fait comme eux. On leur a rien dit et moi, on m'a arrêté. De déplorables renseignements sont fournis sur son compte. À Saint-Ouen, où il habitait la même chambre que l'introuvable Mathieu, on a saisi chez lui un modèle de bombe en bois. Qu'était-ce que ce modèle de bombe? J'avais trouvé cet engin dans la rue et je l'avais mis sur la table pour faire une farce à la police qui venait souvent en perquisition. On a trouvé aussi une fausse barbe qui appartenait, croit-on, à Gustave Mathieu. Je l'ignore. Vous étiez l'ami de Viard, l'ancien délégué aux finances sous la commune, devenu marchand de vernis. Vous logiez chez lui. Viard est mort le 18 janvier dernier. C'est lui qui vous a recommandé à la Chaumartin. Et c'est par Chaumartin que vous avez connu Ravachol. Viard m'estimait beaucoup. Après sa mort, Chaumartin m'a accueilli comme un fils. Vous avez assisté l'an dernier au débat de l'affaire de Caen et d'Ardard, et c'est vous qui vous avez rendu compte à votre nouvel ami de l'audience de la cour d'assises. Je me rappelle plus ce que j'ai pu dire à Ravachol, j'ai la mémoire très courte. Il a arrêté. Vous vous rappelez parfaitement ce qui intéresse votre défense. C'est ainsi que vous avez raconté que si Ravachol n'avait pas fait sauter le commissariat de Clichy, c'est que vous l'en aviez dissuadé. Parfaitement. La bombe était si grosse que j'ai craint que des ouvriers avoisinants soient atteints par l'explosion. Et si ça avait été des bourgeois, ça aurait été la même chose. Mouvement divers. Vous vous souvenez aussi bien d'avoir participé au crime du boulevard Saint-Germain. Parfaitement. On a causé de l'affaire de Caen, du président qui avait présidé les assises, et il fut décidé entre nous de poser une bombe chez lui. La veille, Ravachol m'envoya savoir à quel étage me recevait Benoît. Je regardais jusqu'en haut, je croyais, comme dans les maisons de commerce, trouver son nom sur la porte. Et la concierge n'a pas voulu me renseigner, et je suis sorti sans connaître l'étage où il habitait. Et le jour de l'attentat, que s'est-il passé? Monsieur Ravachol, qui a apporté la marmite toujours préparée. Nous sommes partis avec lui, avec Béala et Mademoiselle Marguerite Soubert. Nous avons conduit Ravachol jusqu'à la hauteur des Bouffes du Nord, mais là, il nous a renvoyés en disant qu'il ferait bien la besogne tout seul. Et nous sommes rentrés à Saint-Denis. Nous avions emmené Mariette Soubert pour qu'elle passe à la marmite à l'octroi sous ses jupons. Elle savait pas ce qu'elle contenait. Elle n'a même pas demandé. Interrogatoire de Chaumartin. C'est chez ce troisième accusé qu'habitait Ravachol à Saint-Denis avant de prendre une chambre. Travailleur, taciturne, influent, un des théoriciens de l'anarchie, ainsi le dépeignent les renseignements de police. Chaumartin exerçait une action considérable sur ses camarades qu'il avait formés en syndicat. Il était ouvrier professeur à l'école professionnelle de Saint-Denis. C'est un homme de 35 à 40 ans, très épais, l'air d'un honnête courtier en vin, mais très fin sous cette apparence un peu lourde. Il se défend avec une grande prudence et une véritable recherche d'expression. On retrouve vite l'orateur des réunions publiques. L'été dernier, lui demande Monsieur le Président, une lettre de Saint-Étienne vous invite à aller chercher dans cette ville un compagnon qui était inquiété par la police. Cet homme, c'était Ravachol, et il était recherché pour l'assassinat de l'ermite de Chambles. Quelques jours après, Ravachol était installé à Saint-Denis, chez vous, sous le nom de Léon Léger. Avez-vous connu le vol de dynamite commis à Soisy-sous-Étiole? Monsieur Ravachol m'a avoué qu'il en était un des auteurs. Ne vous a-t-il pas dit qu'il avait eu de 120 à 150 cartouches de dynamite? C'est possible. On se réunissait beaucoup chez vous. Ravachol, qui avait pris un logement, revenait vous voir presque tous les jours. Il y avait là aussi Gustave Mathieu, Simon Dibiscuit, Béaya et la maîtresse Mariette Soubert. Avez-vous su qu'on projetait un attentat contre la maison du commissaire de police de Clichy? Moi, je l'ai su par Ravachol, qui racontait lui-même qu'il y avait porté une bombe et qu'il n'avait pas eu de chance de trouver le commissariat gardé. Et l'attentat du boulevard Saint-Germain. J'ai vu partir Ravachol, Béala, Simon et Marlène Schubert. Vous avez vu aussi la marmite qu'on emportait chez M. Benoît. Oui, mais je l'ai pas touché. Je suis rentré chez moi. Béala. On n'a pas amené Chaumartin parce qu'il est père de famille. Chaumartin. C'est pas ça. C'est parce que j'ai refusé de m'associer à un pareil acte. J'admets pas ces choses-là. Vous êtes également poursuivi par participation à l'explosion de la rue de Clichy. En effet, le dimanche qui précéda ce second attentat, vous avez aidé Ravachol et Simon dit Biscuit à confectionner la bombe qui devait être déposée chez M. Bulot. C'est-à-dire que j'ai remué un mélange avec une cuillère à la demande de Ravachol, mais je craignais l'explosion et je suis parti presque aussitôt. Vous saviez donc que le mélange était des plus dangereux. Monsieur le procureur général Canet de Beaupère, vous avez raconté que Béala et Simon faisaient le guet chez M. Benoît pendant que Ravachol montait la bombe. Bon, c'est Ravachol qui me l'a raconté lui-même. Ne savez-vous pas qu'ils ont eu également le projet de déposer une bombe dans une galerie du palais de justice? C'est un nommé Gustave Mathieu qui aurait indiqué cette galerie à Ravachol en lui disant qu'il y passait beaucoup de magistrats. Chaumartin hésite à répondre. Il annonce et finit par dire « Avec la dive manuite volée à Soisy-sous-Étiole, Gustave Mathieu assurait à Ravachol que l'on pouvait faire sauter le palais de justice. Mais je me rappelle pas très bien. » Sur la demande de Maître Lagasse, le témoin continue en ces termes. À Saint-Denis, Ravachol était fort calme, estimé de ses voisins. Il apprenait à lire à mes enfants. C'était une physionomie très sympathique et très humanitaire. Il faisait l'aumône autant qu'il pouvait, secourait la femme de Decamp, achetait les chaussures aux petits. Il ne songeait pas à la femme, il ne buvait que de l'eau et du citron. Interrogatoire de Béala. Celui-là est un grand diable de 25 ans environ, avec une moustache de sergent-major, le train allé, l'allure méridionale. Il était bronzeur à Saint-Denis, mais il a longtemps habité Saint-Étienne. C'est chez Chaumartin qu'il a connu Ravachol, et comme Chaumartin, il essaye aujourd'hui d'estomper son rôle. Il se fait modeste et tout petit. Il faut bien le reconnaître, à part Ravachol, tous ces terroristes ont une attitude de petits agneaux devant la justice bourgeoise. Le ministère public reproche à Béala d'avoir acheté des revolvers, fait des voyages suspects à Saint-Étienne, d'où il aurait rapporté de la grisoutine venant de la Gricamari, d'avoir porté la bombe destinée au commissariat de police de Clichy et fait le guet devant la porte de M. le commissaire Benoît. Béala se défend d'une façon pitoyable. « Voyons, lui demande M. le président Benoît, c'était votre maîtresse Marlène Soubert qui portait la marmite sous sa robe. C'est elle qui l'a passée à la barrière. » Bon, je croyais que c'était quelque chose qu'il fallait passer en fraude à l'octroi. Et les armes que vous rapportiez de Saint-Étienne? C'était pour faire du commerce. Interrogatoire de Mariette Soubert. Peu de choses à dire de la maîtresse de Béala, Mariette Soubert, plieuse de journaux à Saint-Denis. C'est une physionomie souffreteuse et fatiguée de petite ouvrière de faubourg. Elle ne se souvient de rien, pas même d'avoir porté la fameuse marmite destinée à faire sauter le conseiller Benoît. Monsieur le procureur général Quesnay de la Beaupère dit « Qu'auriez-vous donc répondu aux employés de l'octroi si vous avez interrogé ?» Ravachol intervenant « Mais j'avais l'intention de prendre toute la responsabilité sur moi. Si les employés de l'octroi avaient questionné Mariette ?» Les témoins. Les premiers témoignages entendus sont ceux de M. le conseiller Benoît et de M. l'avocat général Bulot. M. Benoît est tellement impressionné encore qu'il est à peu près impossible d'entendre un mot de sa bouche. Peu intéressante d'ailleurs, car le jour de l'explosion, il était absent chez lui. C'est l'immeuble surtout qui a souffert. Dans son appartement, tout s'est réduit à des dégâts insignifiants. « J'ai passé 3 semaines que j'oublierai jamais, » dit en déterminant M. Benoît. « Je ne dois être contre personne, un attentat contre moi m'est indifférent. Mais si ma femme et ma fille avaient été atteintes... » M. Benoît n'achève pas sa phrase et fait connaître un seul défaut nouveau. La veille de l'attentat, une femme inconnue vint le demander, évitant de parler à la concierge et sonnant directement à sa porte. M. le substitut Bulot raconte à son tour les conséquences de l'explosion dirigée contre lui. « J'étais encore couché, » dépose-t-il. « Me suis précipité hors de ma chambre. Les portes de l'appartement étaient renversées dans l'intérieur. Je voulus descendre par le grand escalier. » C'était effondré. Je dus sortir par l'escalier de service. C'est extraordinaire qu'il n'y ait pas eu de mort. La maison a été complètement lézardée. Le parquet de l'antichambre du premier s'est affaissé sur l'entresol. La salle à manger du troisième a été pulvérisée. Un coup de table a été projeté du tiroir d'un buffet et est allé se piquer dans la muraille. Les locataires ont été sauvés, et pour la plupart au moyen d'échelles que les pompiers sont appliqués contre les fenêtres. Ma femme, ma fille et moi, nous avons pu descendre par l'escalier de service. C'est encore mon appartement qui a été le moins endommagé. M. Girard, directeur du laboratoire municipal, est cité comme expert chimiste. Il a recueilli dans la maison de M. Benoît un débris de marmite en fonte. Cette marmite avait dû être remplie de morceaux de fer que l'explosion avait projetés dans toutes les directions. La rampe de l'escalier était complètement brisée. Les barreaux étaient hachés. Si quelqu'un avait passé à ce moment, il eût été littéralement mitraillé. M. Girard donne des détails sur la consistance de l'engin. Une capsule de fulminate était placée au milieu de la dynamite. Une mèche communiquait avec le fulminate. Et une fois la mèche consumée, l'explosion faisait voler la marmite en éclats en projetant de tous côtés des morceaux de fer. Si la maison du boulevard Saint-Germain n'a pas été aussi endommagée que celle de la rue de Clichy, c'est que la porte d'entrée est formée d'une énorme glace qui s'est immédiatement brisée, laissant échapper les gaz. Quant à l'engin qui a fait sauter la maison de M. Bulot, il n'en a été trouvé aucune trace. M. Girard croit que Ravachol ne s'est pas servi cette fois uniquement de la dynamite, mais aussi de la nitroglycérine, ce qui n'est pas douteux puisque nous avons assisté tout à l'heure à la fabrication de l'engin dans la chambre de l'accusé. La quantité de dynamite employée dépassait certainement 7 ou 8 kilos. Et la compression de l'air était telle que, si quelqu'un avait passé dans l'escalier, il fût tombé foudroyé, quand bien même aucun débris de projectile ne l'eût atteint. Le chiffre des dégâts dépasse 40 000 francs pour l'immeuble du boulevard Saint-Germain et 120 000 francs pour la maison de la rue de Clichy. Après la déposition du docteur Laugier, qui donne des détails rassurants sur l'état des blessés de la rue de Clichy, un mouvement de sympathie saisit l'apparition du jeune Leroux, qui a eu le courage de faire arrêter Ravachol et qui hier a échappé si miraculeusement à la vengeance des anarchistes. Leroux est un jeune blond à figure énergique qui dépose sans aucun embarras et qui ne paraît pas facile à intimider. Déposition de Leroux. Vers le milieu de mars 1892, un monsieur est entré un jour dans le restaurant, me demandant de lui servir à déjeuner. C'était Ravachol, qu'alors je ne connaissais pas. La conversation s'est engagée sur le métier militaire. « L'armée, me disait le client, c'est un tas de feignants. »« Oh, je suis bien content d'en être débarrassé, lui répondis-je. « Mais il faut bien une armée pour défendre le pays. »« Peu, fut-il, qu'est-ce que ça peut vous faire d'avoir d'être gouverné par un Allemand ?»« Lisez les journaux anarchistes. » Et il se mit à parler avec une sorte de joie de l'explosion de la rue de Clichy qui avait eu lieu le matin et que j'ignorais encore. « Cette fois-ci, me dit-il, il y a eu plusieurs blessés. » J'étais très inquiet des manières de ce particulier et je dis à Madame Véry, ma sœur, que s'il revenait déjeuner ou dîner, je préviendrais la police. Et le lendemain, je lisais dans les journaux le signalement de Ravachol. « Mais c'est mon homme » m'écriai-je. 3 jours plus tard, il reparaissait au restaurant. Je lui servis, comme si de rien n'était, un bouillon de la viande et du dessert. « Ravachol est ici, » dis-je à mon beau-frère. « N'ayez l'air de rien, ne lui donnez pas l'éveil. » Mon beau-frère sortit prévenir la police. 10 minutes après, le commissaire était assis à côté de lui. Quand Ravachol aperçut ce monsieur qui le regardait, il se douta de quelque chose, et après avoir payé précipitamment, il prit son chapeau pour sortir. Et c'est à ce moment-là que les agents l'ont arrêté. Monsieur le Président félicite chaleureusement le témoin. « Vous êtes montré très intelligent, très courageux, » dit-il à l'héros. Vous avez rendu à la justice un très grand service. » Après un défilé de témoins à décharge qui déclarent que Chaumartin était un véritable philanthrope, un ouvrier modèle qui se ruinait pour les ouvriers de Saint-Denis, après une apparition du compagnon Le Boucher qui s'avance entre deux gendarmes ayant été compris dans la dernière rafle et qui tient à décerner à Ravachol un brevet de petit manteau bleu, achetant des chaussures aux enfants pauvres et distribuant à tout le monde son argent, l'argent de l'ermite des Chambles, la parole est donnée à M. le procureur général Canet de Beaurepaire. Le réquisitoire. Dans un réquisitoire très énergique et dont nous le féliciterions si ce n'était lui faire injure, M. le procureur général Canet de Beaurepaire s'est attaché à démontrer que Ravachol n'est même pas un inventeur. Avant lui, d'autres malfaiteurs de droit commun, voleurs, assassins, gredins de la pire espèce, ont essayé de se hausser sur leurs jambes de bandits et d'ennoblir leur forfait en se réclamant de théories révolutionnaires. Tels, il y a 100 ans, les chauffeurs et les réfractaires. Ces gens-là ne touchent pas plus à la politique que l'ulcère ne touche au corps humain. Ces poseurs du crime suivent nos agitations politiques, si fréquentes, hélas, comme les corbeaux et les loups suivent les armées en marche. Mais le jury leur arrachera leur masque. Il verra dans Ravachol et ses complices ce qu'ils sont, des imitateurs de l'incendiaire et du voleur, du val, qui chargé de crimes se réclama le premier devant le jury de la Seine de la qualification d'anarchiste il y a quelque 10 ans. Monsieur le procureur général Quesnay de Beaurepaire tient à rassurer l'opinion publique. On lui a reproché de faire des rafles. Il en sera fait bien d'autres, que les anarchistes le tiennent pour dit, autant que la sécurité sociale l'exigera. Non seulement le parquet est déterminé à poursuivre les anarchistes qui auront commis des crimes, mais ceux qui les auront préparés, ceux qui, manifestement, auront manipulé des substances explosives ou préparé d'une façon quelconque des attentats. Après avoir examiné l'affaire, discuté la culpabilité de chacun des accusés, M. le procureur général Quesnay de Beaurepaire se tourne vers Ravachol et s'écrie « On a dit que nous avions peur, mais qui donc a peur ici? Qui donc tremble devant un Ravachol? Est-ce moi?
Est-ce monsieur l'avocat général Kruppi, qui ne m'a cédé sa place qu'à regret, et qui est là, après de moi, ayant tenu à m'assister à cette audience? Les magistrats sont des soldats qui ne reculeront jamais devant le devoir. S'il en tombe un, second prendra sa place, brûlant du désir de faire mieux que lui. Tant qu'il y aura des lois, il y aura des juges, des jurés pour les appliquer. Et le procureur général tient aujourd'hui à revendiquer hautement, pour lui d'abord, la responsabilité de la poursuite et de la sentence. Monsieur le procureur général requiert, en terminant, la peine de mort contre Ravachol, contre Simon, dit Biscuit, moins catégoriquement contre Béala, une sentence très atténuée contre Chaumartin, et pour les femmes Soubert, ils s'en remettent à l'appréciation du jury. À 10 heures, la parole est aux avocats. La défense. Peu de choses à dire des plaidoiries. Maître Lagasse, au nom de Ravachol, fait naturellement le procès de la bourgeoisie et représente son client comme une victime, comme un soldat de l'idée égaré par les doctrines socialistes. Il pense que si Ravachol doit porter sa tête sur l'échafaud, c'est à Montbrison pour l'assassinat de l'ermite de Chambles. Il supplie les jurés de la scène de ne pas rendre un verdict impitoyable qui pourrait amener de lamentables représailles. Maître Deschamps, Henri Robert, Eugène Crémieux et Fourcade présentent ensuite la défense des autres accusés. Il est 1h40 du matin quand le jury entend délibération. À 3h15, il vient en séance. Le verdict. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Simon, dit Biscuit, aux travaux forcés à perpétuité. Béala, Chaumartin et la fille Mariette Soubert sont tous trois acquittés. On a bien lu. Le verdict du jury accorde des circonstances atténuantes à Ravachol. Même déclaration en ce qui concerne Simon, dit Biscuit. Je salue ma condamnation du cri de « Vive l'anarchie !» s'écrie Ravachol en quittant l'audience. « Vive la sociale !» glapit Simon. « Voilà la réponse !» crie de nombreuses voix aux jurés, qui sont légèrement hués par une partie du public. Si au lieu de précipiter le procès et de déférer à la justice Ravachol pour 2 tentatives d'assassinat, auxquelles la pusillanimité des jurés s'est complue à attacher un caractère politique, on leur avait donné à juger Ravachol assassin et voleur, si on leur avait présenté tout entier, ils n'auraient pas hésité devant la peine de mort. Il faut ajouter que les débats ont été dirigés avec une étrange mollesse, pour ne pas dire plus. Nous retrouverons Ravachol devant la cour d'assises de la Loire pour le crime de Chambles.